d'abord un point sur la situation des marchés obligataires et des enjeux pour les banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine qui se réunit cette semaine à partir de demain pour deux jours. C'est Nicolas Leprince qui est à mes côtés en plateau, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Nicolas.
D'accord.
Merci beaucoup d'être avec nous. Le mois d'avril se termine et restera marqué par un nouveau choc de taux réels, emmené évidemment par l'économie américaine avec des données. Alors, qui laisse un arrière-goût un peu différent. On a vu des données d'activité qui pouvaient donner l'impression d'un affaiblissement de l'économie américaine, quand les données d'inflation, elles, donnent peut-être l'idée d'un redémarrage, ou en tout cas d'un momentum inflationniste qui ne s'est pas apaisé autant que prévu. Résultat, les taux américains, les taux longs notamment, se sont envolés. Quel est l'état des lieux que vous dressez de cette situation, de ce couple croissance-inflation aujourd'hui aux États-Unis et de ce que ça peut impliquer pour la Banque centrale américaine, bien sûr, Nicolas?
Comme vous l'avez dit, je pense que la Banque centrale américaine ne va pas annoncer de hausse ou de baisse des taux cette semaine, c'est la première chose. C'est sûr que le dernier chiffre de PIB qu'on a vu la semaine dernière, sur le papier, n'était pas très bon à 1,6, sur un trimestriel analysé, c'est vrai que ça paraît pas très bon, mais quand on regarde le détail de ce qui a contribué négativement, vous avez une grosse partie de la contribution négative qui vient de ce qu'on appelle le net export, donc les exports totaux. Et en fait, dans les exports totaux, vous avez les exports moins les imports. Et en fait, ce qui a beaucoup monté et qui contribue négativement à la croissance, ce sont les imports. Mmh. Donc, ce n'est pas vraiment le signe d'une économie qui ralentit très fortement. C'est le signe d'une économie qui croit autour du potentiel, autour des 2% de croissance réelle aux États-Unis, mais pas de ralentissement très fort. Et d'ailleurs, quand on prend le dernier jeu de scénario économique qui date de mars, de la Fed, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient remonté leurs anticipations de croissance pour 2024. Ils étaient passés de 1,4 à 2,1. Ouais. Donc en fait, on est très proche de ce 2,1. Là où, en fait, il y a plus de questionnements, c'est sur l'inflation, bien sûr. On aurait pu s'attendre avec une Fed qui remonte un petit peu ses prévisions d'inflation, et même si vous prenez le consensus de marché, il a eu tendance à pas mal remonter hein, sur 2024, le potentiel de croissance est pour 2024. Et en fait, quand on regarde dans le détail de l'inflation, en fait, ce ne sont pas les catégories liées au cycle qui ont l'air de monter aux États-Unis. Vous avez une étude de la Fed de San Francisco qui va regarder ce qui va venir de la demande et ce qui va venir du supply side. Et en fait, la hausse de l'inflation qui vient de la demande est plutôt en baisse. Voilà. Vous prenez ça par rapport au Q4 2023, par rapport au Q1 2024, vous avez quelque chose qui continue de ralentir, lié aux effets de demande. Et en fait, dans le détail des chiffres d'inflation, que ce soit janvier, février ou mars, vous avez ce qu'on appelle un peu des one-off, des éléments exceptionnels qui peut-être ne se reproduiront pas. Vous aviez en janvier des frais médicaux qui sont très liés au chiffre d'emploi, ouais. Qui, eux, ont plutôt surpris à la hausse en janvier. En février, c'était plutôt les billets d'avion qui ont eu tendance à beaucoup monter. C'est beaucoup d'effets exceptionnels spécifiques. En mars, c'était, là, pour le coup, l'assurance auto.
Oui,
c'était Regarde. L'assurance auto. Donc, vous avez
mesuré dans le CPI à plus de 20%, je crois,
voilà,
c'est ça.
Enfin, exactement. C'était, alors, il y a deux façons de
faire ça. Et en plus, il y a la question statistique.
Soit on se dit, on essaie de découper, regarder, et dans ce cas-là, on regarde, c'est plutôt correct. Ouais. Ça continue à désinflater. Il y a des catégories qui sont, comme on dit en anglais, outliers, c'est-à-dire qui changent un petit peu ou qui font des chemins un petit peu différents. Ou alors, vous le regardez au total, et au total, en effet, le chemin n'est pas très bon. Mm. Vous prenez... Ce que vont regarder les banquiers centraux, c'est forcément l'inflation en glissement annuel. Elle continue à se stabiliser ou à baisser. Ou alors, Jerome Powell, de temps en temps, il regarde ce qu'on appelle les 6 mois annualisés. Si vous regardez les 6 mois annualisés sur l'indicateur qui regarde quel est le PCE inflation, on est toujours à 3% de 6 mois annualisés. Ouais. Mais des annualisations plus courtes, des 3 mois et choses comme ça, ont tendance à monter. Globalement, on a plutôt l'impression que cette année, c'est plutôt une année où le mandat de la Fed va revenir plus symétrique. Entre l'inflation et le chômage, ils vont être quand même très attentifs aux données de croissance, aux données de chômage. Et ça les poussera à être assez prudents. Très clairement, on ne voit pas de hausse de taux cette année aux États-Unis, comme commence à le presser un petit peu les marchés. Ça nous paraît être une marche beaucoup trop importante. Les chiffres totaux d'inflation et le fait qu'on pressait quand même beaucoup de baisses de taux en début d'année fait que les taux d'intérêt ont monté. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de marge supplémentaire à la hausse de taux? Ça nous paraît un peu compliqué.
Ouais. 3% d'inflation, c'est ce que vous disiez sur du 6 mois annualisé, PCE, la mesure privilégiée pour la Fed. Certes, c'est peut-être pas encore l'idéal, mais c'est un niveau qui permet quand même à la Fed de se concentrer aussi sur l'autre partie de son mandat. C'est ce que vous dites, Nicolas. Et ça veut dire que si le pivot dovish de décembre de Jérôme Powell a peut-être été un peu extrême, puisqu'on a enlevé beaucoup des baisses de taux qui avaient été générées par cette communication de décembre de Jérôme Powell, l'idée quand même d'un prochain mouvement à la baisse reste l'idée centrale pour vous aujourd'hui.
C'est toujours ce qui est pricé par le marché. On a 35 points de base qui sont pricés pour 2024. C'est très loin des 150, 160 qu'on avait en début d'année, mais c'est toujours le chemin pour nous du côté de la Fed et du côté de la BCE aussi.
Ouais.
Et du côté de la BCE.
Dans quelle mesure, du coup C'est ça la question.
Du côté de la
si la Fed n'en fait plus qu'une, c'est le scénario du jour du marché.
Du côté de la BCE, quand on regarde dans le détail, le chemin est beaucoup plus en ligne avec ce qui était prévu en fin d'année. Il y a plusieurs caractéristiques. La première, la question que se posent les marchés, c'est est-ce qu'il y a des effets de second tour de l'inflation américaine sur d'autres économies? Et là, je trouve qu'une des choses qui est assez intéressante, c'est d'écouter par exemple la Banque Centrale du Canada. Donc c'est Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque Centrale du Canada, une économie quand même très liée aux États-Unis, qui a eu la question savoir est-ce que il y a des effets de passation très forts dans l'inflation canadienne. Eh bien, selon lui, les effets sont relativement limités sur l'inflation canadienne.
Malgré l'imbrication de l'économie canadienne avec l'économie américaine.
Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on prend les données d'inflation canadienne, elles sont à 2,9 en glissement annuel. Et quand on prend des mesures, quand on enlève ce qu'on appelle les trim means, c'est-à-dire on enlève
les extrêmes
à la hausse, à la baisse, en fait, on est sur quelque chose qui continue de baisser. Deuxième chose, en zone euro, on parle beaucoup, et vous en avez parlé, de l'euro qui est quand même plutôt plus bas. En début d'année, on était autour des 1,10. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,0750. On va dire on est relativement stabilisé. Mais quand on prend en effectif réel, c'est-à-dire avec le panier d'importation de la zone euro, en fait, l'euro est au plus haut historique depuis sa création. Ouais. C'est-à-dire que les pressions inflationnistes qui peuvent venir
du reste du monde
sont assez calmées par ce change-là.
L'euro mesuré par rapport aux devises, épondéré par rapport aux devises de ses principaux partenaires commerciaux. C'est ça l'idée
du prend la Chine, on prend l'UK, prend les États-Unis, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui empêche
même si l'énergie se traite en dollars, et c'est pour ça aussi qu'on regarde beaucoup l'euro-dollar.
Dans le mix énergétique américain, oui, il y a beaucoup de pétrole, mais dans le mix énergétique européen, vous avez du pétrole, mais vous avez aussi beaucoup de gaz et beaucoup d'électricité qui est générée soit par de l'éolien, du solaire ou du nucléaire. Et de ce côté-là, éolien, solaire, nucléaire, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à reprendre. Quand on prend les prix du gaz depuis le début de l'année, ils sont plutôt en baisse en zone euro, et donc en effet, on a cet effet de pétrole en dollars et donc remesure en euros qui semble peser un petit peu à la hausse sur l'inflation, mais dans le mix énergétique, en fait, on a une inflation en glissement annuel sur l'énergie qui continue à baisser en zone euro.
Et donc, ça veut dire que la BCE peut se permettre quand même, au moins pour quelques mouvements, de s'affranchir, j'allais dire, des problématiques de la réserve fédérale américaine.
La première chose, c'est que la hausse de septembre 2023, déjà, c'était ce qu'ils appelaient « insurance hike », c'est-à-dire une hausse un peu d'assurance. Ouais. Maintenant, dans la communication de la BCE, on voit que même les membres les plus faucons de la BCE ne remettent pas
ils acceptent l'idée qu'il doit y avoir une baisse de taux.
Ouais. Ils essayent, pour l'instant, ils se battent sur le deuxième ordre, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire ce qu'on appelle le « back-to-back », c'est
juin-juillet.
C'est en juin, on a encore M. Wunsch aujourd'hui qui s'est prononcé là-dessus en disant que ça lui paraissait peut-être un petit peu excessif, mais ils sont plutôt en train de se battre sur le second. Et pas sur la direction. Donc nous, on voit toujours des baisses de taux dans la zone euro, certainement aux alentours de 3 baisses de taux sur la zone euro.
C'est ça. Et 3, c'est compatible avec l'idée qu'on ne prend pas de risque de change. Vous avez noté le point, effectivement, sur l'euro, qui est quasiment au plus haut par rapport à ses devises et aux devises des partenaires commerciaux. 2-3 baisses, même si la Fed ne fait rien, c'est gérable du point de vue du Forex.
Exactement. Et quand on prend un peu les anticipations d'inflation en zone euro, aux États-Unis, elles ont pas mal remonté en zone euro, elles sont toujours plutôt basses. Aujourd'hui, demain, on va avoir l'inflation en zone euro qui sera certainement aux alentours des 2,3 ou 2,4. Avec les premières données qu'on a eues ce matin d'Espagne et de l'Allemagne, on a plutôt tendance à penser que c'est peut-être plutôt 2,3 que 2,4. Donc on baisse. On a aussi l'inflation core, donc celle des services, qui aura tendance à pas mal baisser ce mois-ci. Donc on va se retrouver dans un schéma où l'inflation européenne en glissement annuel sur tout le reste de l'année va être
à 2.
Entre 2 et 2,3.
Ouais.
Donc on est vraiment sur le scénario d'inflation de la BCE. Voilà.
D'un point de vue obligataire, vous êtes gérant multi-asset, mais avec une dominante fixed income de longue date. Nicolas, qu'est-ce que ça implique pour vous chez Edmond Rothschild Asset Management?
Ça implique qu'on reste positif sur les obligations. On voit bien que les taux d'intérêt ont monté, mais pour nous, le schéma d'inflation, aussi bien aux États-Unis, j'ai parlé sur les facteurs cycliques, sont pas orientés à la hausse. En zone euro, on continue le plan, donc on reste positif sur les obligations. On a clairement un biais pour être plus positif sur les obligations européennes, même si on prend le taux allemand à 2,5-2,6% sur le 10 ans, ça paraît pas très attractif. Ça nous semble être quand même celle qui a le plus de potentiel, c'est-à-dire que avec des taux qui peuvent baisser plus, parce que le potentiel de croissance pour nous n'a pas beaucoup monté en zone euro, parce que l'inflation réagit quand même plutôt bien en zone euro.
Ah ouais. Y compris jusqu'à augmenter la duration justement sur l'obligataire européen zone euro aujourd'hui.
Exactement. Nous, on reste assez constructif sur toutes les dettes. On peut parler de l'OAT, on peut parler du BTP.
Alors, c'était ma question. Est-ce qu'il y a un risque de spread aujourd'hui sur les souverains européens? On sort de 2 mois de psychodrame médiatico-politique sur l'OAT française spécifique, mais il y a des sujets qui peuvent être au-delà, en dehors du seul obligataire français. Est-ce qu'il y a un risque de spread aujourd'hui souverain en Europe?
Il y a deux choses. La première chose sur la France. Je ne vais pas dire que les chiffres vont dans le bon sens. On a vu Fitch et Moody's qui remettent en cause un petit peu la trajectoire de dette sur PIB à moyen terme de la France. Je pense que Moody's parle de 2029 pour revenir à l'équilibre au lieu des 2027 qui sont annoncés par le gouvernement. Mais l'AFT, donc l'émission de trésor, l'émission d'obligations françaises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé ce remue-ménage qu'il y a forcément avec ces agences de notation. Et quand on prend le programme de financement de la France, aujourd'hui on a fait un tiers de l'année, ils ont déjà fait 45% de leur programme de financement. Ils sont en avance par rapport à ce qu'ils faisaient en 2023. L'autre chose qui est assez rassurante pour les marchés, c'est qu'on n'a pas cette question de savoir que fera la BCE s'il y a le moindre sujet sur une dette périphérique ou sur l'OAT. Première chose, c'est qu'on a le TPI, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est quelque chose qui est plutôt bien intégré par
un filet de sécurité.
Un filet de sécurité, voilà. Exactement. Et la grosse question qu'aurait pu avoir les marchés, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le désinvestissement. Vous savez que la BCE détient beaucoup d'obligations souveraines. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur gros programme qui est le PEPP? Ça, ils ont déjà déminé largement le terrain. En fin 2023, ils ont déjà préannoncé qu'en juillet, ils allaient commencer à réduire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'inconnu du côté de la BCE. On sait qu'on a un filet de sécurité. On sait ce que la BCE fera. Bon, est-ce que on le voit, les marchés price tout ça. Le spread, donc l'écart de rendement entre l'Allemagne et la France évolue entre 40 et 50 points de base. Et pour l'instant, il n'y a rien qui bouge.
Il n'y a pas de raison fondamentale d'être en dehors complètement de la dette française aujourd'hui quand on est un investisseur obligataire.
On a beaucoup de liquidités, on peut se poser des questions à moyen terme, mais ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se pose des questions à moyen terme, et pour l'instant, ça ne change pas.
Bon, un non-event jusqu'à aujourd'hui, effectivement. Je crois qu'il y a une décision rendue par une troisième agence, S&P, je crois, quelques semaines après l'étape Fitch et Moody's sur la dette française. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ces sujets obligataires autour notamment du couple croissance-inflation aux États-Unis. Ça reste quand même ce qui domine les mouvements des marchés obligataires mondiaux aujourd'hui. Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.